Bonjour Mgr Brouvet.
Bonjour Anne-Rose.
Avec vous aujourd'hui, nous allons parler de la figure du prêtre. Vous nous direz quelles formations suivent les séminaristes. Vous nous direz aussi où est-ce que nous en sommes dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes sur cette question-là. Pour commencer, on va se poser la question de la vocation. Au fond, comment on devient prêtre? Comment naît la vocation de prêtre?
Mais tout commence déjà par un désir. Ça veut dire qu'il y a un garçon ou un homme qui a un désir au fond du cœur et qui sent qu'il pourrait bien être prêtre. Alors souvent, ça passe d'ailleurs par vous voyez, un aspect du ministère de prêtre. C'est-à-dire un garçon va se dire « moi, j'aimerais bien m'occuper des jeunes comme prêtre » ou « j'aimerais bien confesser » ou bien « j'aimerais bien prêcher » ou bien « j'aimerais bien enseigner » ou bien « j'aimerais bien m'occuper des pauvres ». Souvent, il y a une sorte de porte d'entrée dans la vocation. Et puis... Alors ce désir, eh bien, il faut que d'abord il soit stable, c'est-à-dire qu'il reste un peu de temps hein, dans le cœur, parce qu'il y a des désirs qui sont fugitifs, hein, qui passent dans l'exaltation d'un camp, par exemple, on se dit « ah, je veux être prêtre ou, », ou bien parce qu'on a fait une retraite, ou bien parce que le prêtre de l'aumônerie est formidable. Bon. Et donc là, il faut vérifier que ce désir reste. Alors c'est pour ça qu'en général... Eh bien, on conseille à un garçon qui a ce désir d'aller voir un prêtre, oui. Le prendre pour accompagnateur spirituel, justement pour voir ensuite comment ce désir, il correspond vraiment à la réalité. Il serait possible de le mettre en œuvre dans la vie de ce garçon ou de cet homme. Et puis ensuite, ce désir, il faut... le rendre compatible dans une vie d'église. Oui. Par exemple, vous pouvez vouloir être prêtre, mais vous n'allez jamais à la messe, c'est un petit peu embêtant. Vous voulez être prêtre, mais vous n'avez aucun engagement dans votre paroisse ou dans une aumônerie, c'est un petit peu embêtant. Ou bien vous êtes prêtre, mais vous êtes tellement timide que vous ne parlez jamais, vous ne prenez jamais la parole. Pour un prêtre, ça va être...
Ça peut s'apprendre.
Ça peut s'apprendre. Oui, vous avez raison, ça peut s'apprendre, mais il faut quand même qu'il y ait quelques qualités qui correspondent aussi au ministère d'un prêtre.
Alors, on a l'idée d'un appel un peu foudroyant, mais en fait, ce qu'on comprend avec ce que vous nous dites, Monseigneur, c'est que l'appel, il peut se faire dans la durée. Ce n'est pas forcément un appel tout d'un coup, un jour on se réveille et le Seigneur nous appelle.
Ah ben, il doit se faire dans la durée. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un garçon arrive en disant « je veux rentrer au séminaire » que le lendemain, il s'y retrouve.
Oui.
Justement, la durée, c'est la vérification que c'est un appel profond, que ce n'est pas juste une velléité. Et puis ça permet aussi de mûrir, d'entrer dans une vie de prière, d'entrer dans une vie d'église, d'accepter aussi que ces désirs soient vérifiés par l'église. Parce que dès qu'on prend un père spirituel, un accompagnateur spirituel, c'est aussi pour remettre ce désir entre les mains de l'église. Et donc... voilà. Et puis alors, il peut y avoir des moments où ce désir retombe et puis il revient. Hein, c'est souvent d'ailleurs comme ça. On dit non, c'est pas pour moi. C'est
un peu comme un temps de fiançailles.
Oui, c'est exactement. C'est vraiment le principe du discernement pour voir justement, même si l'appel disparaît, parce qu'il y a beaucoup de garçons, par exemple, qui ont eu l'appel à 9 ans, 10 ans, puis pendant l'adolescence, c'est parti, puis c'est revenu à 20 ans ou 21 ans ou 22 ans. Donc, je crois que là, il faut vraiment... Le principe, c'est qu'il y ait vraiment une grande liberté, que chacun se sente libre face à Dieu, et puis que même s'il en a parlé autour de lui, parce que parfois, on dit « ah, je veux être prêtre aux amis », bon, qui est vraiment une liberté qui reste, parce que c'est la liberté dans l'Esprit Saint, pour pouvoir laisser le Seigneur faire son œuvre, parce que c'est ça qui compte, c'est que nous fassions la volonté du Seigneur, nous entrions dans le dessein de Dieu. Voilà, et donc, liberté dans l'Esprit Saint. Et puis, il faut que le prêtre qui accompagne le jeune homme ou le garçon, eh bien aussi, lui laisse la liberté de répondre lui-même et qu'il ne réponde pas à sa place.
Vous pouvez nous dire comment ça s'est passé pour vous? Comment est née la vocation de prêtre pour vous?
Oh, je suis assez pudique sur mon itinéraire. Et donc, mais moi, c'était un peu comme ça que ça s'est passé. J'ai eu le premier appel à 18 ans, pas avant. Bon, mais j'ai mis 4 ans, vous voyez, à me décider. Et puis, il y a eu des moments de haut, des moments de bas, des moments où je pensais que c'était vraiment ça. Bon, voilà. Et puis, alors, il faut accepter justement d'entrer dans un accompagnement, une vérification. Puis que d'autres personnes vous disent, bah oui, je te verrais bien prêtre. Bah oui, ça serait... Voilà.
Au fond, qu'est-ce que c'est un prêtre? Est-ce qu'on peut donner une définition d'un prêtre?
Un prêtre, c'est d'abord un pasteur, un pasteur à la suite du bon pasteur. sur le modèle du bon pasteur, oui. Jésus est le pasteur des brebis, le pasteur de l'Église. Mais il a confié la charge des communautés à des hommes, donc à ses apôtres, qui ont eux-mêmes imposé les mains à leurs successeurs et puis qui ont pris des collaborateurs. Les prêtres, ce sont des collaborateurs des évêques qui sont successeurs des apôtres. C'est comme ça qu'on remonte à Jésus. Mais au fond, c'est se mettre à la suite de Jésus, bon pasteur qui donne sa vie pour son troupeau. Et donc, les prêtres ont ce ministère, à la fois un ministère de communion de l'Église, un ministère d'encouragement aussi, un ministère de discernement. Et puis, évidemment, ce ministère de prédication et puis de don de la vie de Dieu à travers les sacrements. Voilà, donc... Ça en fait une vie extrêmement riche.
Ils sont aussi une sorte de pont, de passerelle entre les chrétiens et le bon Dieu.
Alors écoutez,
est-ce qu'on peut dire ça ?
Je ne dirais pas ça comme ça. Donc, chaque baptisé est déjà en relation directe avec le Seigneur. Non, je crois que, si vous voulez, le prêtre, il est là pour... il est au service des baptisés. Il est au service des baptisés pour que chacun puisse vivre son baptême. Et là, donc, il est la figure du Christ pasteur au milieu du troupeau, comme le dit l'Écriture, et puis ensuite François, le pape François. Mais c'est vraiment celui qui aide chacun à vivre les grâces de son baptême, à se mettre au service du monde et de l'Église.
Voilà, dans un monde qui évolue, qui est sans cesse en mutation, ça c'est un défi pour le... C'est un défi pour le prêtre aujourd'hui, mais ça a toujours été un défi pour tous les prêtres.
Oui, d'être dans le monde d'aujourd'hui. Alors par contre, il porte le monde dans la prière, et en particulier dans la prière de la messe, il y a un aspect éminemment sacerdotal, de porter l'humanité entière devant Dieu. Mm-hmm. C'est pour ça que toute messe, parfois vous vous dites, bah oui, mais la messe, elle n'est pas très intéressante, le prêtre ne parle pas très bien, ou... l'église est froide ou bien les chants sont pas terribles, mais la messe, ça reste la messe. Même une messe dans une paroisse de campagne où il y a peu de monde, c'est quand même le Christ qui porte, par les mains du prêtre, qui porte l'humanité devant Dieu. Et c'est le prêtre qui fait ça. Et donc, ça, c'est la grandeur et la beauté de la messe, même si elle est célébrée de manière très, très humble, ou au fond d'un monastère. Il y a cette... dans ce sens, vous voyez, il y a ce ministère sacerdotal où le prêtre est un pont entre l'humanité et Dieu.
Est-ce que c'est plus dur d'être prêtre aujourd'hui qu'il y a 100, 200 ans ou même 50 ans ?
Alors, il y a 100, 200 ans, Anne-Rose, je n'étais pas née. 50 ans,
mais vous savez beaucoup de choses que vous pouvez nous transmettre.
Oui, alors écoutez, moi je n'ai pas l'impression que ça soit forcément plus dur.
Les défis ne sont pas plus nombreux,
Je crois que les défis sont différents. Ouais. Puis nous, on est, vous voyez, quand on est prêtre, on arrive avec notre histoire, on est des hommes de notre époque.
Ouais.
Et donc, je me rappelle que des prêtres m'ont dit, moi je viens de la région parisienne, et il y a 60 ans, 70 ans, le curé était logé, mais les vicaires, ils devaient se loger en ville, ils devaient trouver une chambre quelque part. Et moi, je me rappelle quand on m'a dit ça, j'ai lu dans ma première paroisse, dans les années 30, le curé était un curé... assez progressiste parce que il avait fait construire une maison pour les vicaires. C'était vraiment un acte de générosité incroyable. Mmh. Il allait loger ses vicaires alors que les vicaires, ils étaient censés se loger où ils pouvaient. Et souvent, c'était dans des mansardes, c'était pas terrible, terrible. Bon. Donc moi, je vois quand même qu'il y a des conditions d'exercice du ministère qui ont bien changé. Bon, maintenant, un prêtre, il a toujours à vivre dans ce monde-ci et puis accueillir le monde tel qu'il est et à aider les baptisés à vivre leur foi chrétienne. Alors c'est sûr qu'il y a 50 ans, c'était plus chrétien, il y avait des structures. C'est ça qui a changé, c'est qu'il y avait des... On était portés aussi par des structures qui étaient imprégnées d'évangile. Par exemple, la structure de la famille, elle ne bougeait pas beaucoup. Et maintenant, tout se délite. Et donc c'est beaucoup plus dur à l'heure actuelle d'accompagner des personnes qui vivent seules, qui sont séparées. Des enfants qui vivent dans deux endroits à la fois. C'est vrai qu'il faut faire aussi preuve d'imagination, mais je crois que c'est pas plus difficile. En tout cas, moi, quand j'étais plus jeune, on vivait de ce côté-ci du rideau de fer. On savait très bien qu'avant 89, dans les pays de l'Est, beaucoup de prêtres étaient prêtres de manière anonyme, beaucoup étaient envoyés dans des camps. Beaucoup étaient retenus en prison, accusés. Donc, je ne crois pas que de ce point de vue-là, de l'autre côté du rideau de fer, il y a 50 ans ou 60 ans, c'était plus simple.
Voilà. Il y a cet aspect donc de la vocation, puis il y a aussi l'aspect de la formation, parce que même si on ne dit pas forcément qu'être prêtre, c'est un métier, n'empêche qu'il y a des choses à apprendre. Ça s'apprend au séminaire. Comment ça se passe? Comment ça se passe la formation au séminaire? Combien de temps ça dure? Qu'est-ce qu'on apprend?
Alors d'abord, je crois que le séminaire, c'est un lieu de discernement. C'est-à-dire que le garçon qui a eu un désir, qui a commencé par le faire vérifier par un prêtre accompagnateur, à un moment, il remet ce désir entre les mains de l'Église en disant à l'Église, est-ce que tu peux vérifier que cet appel vient de Dieu? Je crois que ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'on entre au séminaire. C'est pour faire vérifier que le désir qui monte n'est pas juste un projet personnel, mais le projet du Seigneur pour notre vie. Et donc, quand on entre au séminaire, c'est aussi pour vérifier. Alors, on fait des études, on se forme. Oui. Mais je crois que le premier but, c'est quand même de vérifier la vocation. C'est-à-dire qu'on n'entre pas, par exemple, dans une école d'ingénieurs, vous entrez pour vous former parce que vous avez envie d'être ingénieur. Et puis, peut-être que vous allez vous rendre compte que ce n'est pas ça qu'il vous faut. Mais on n'entre pas dans une école d'ingénieurs pour qu'on puisse vérifier votre vocation. C'est pas, oui, on va vous former pour être ingénieur. Or là, c'est pour ça que le séminaire prend du temps. Parce que imaginez-vous que c'est déjà arrivé, quelqu'un qui fait des études de théologie, par exemple, oui, qui a un doctorat de théologie, puis ensuite il décide d'être prêtre, on ne va pas lui dire puisque tu as fait ta théologie, tu n'as pas besoin d'aller au séminaire. Non, il va quand même falloir qu'il entre, et puis qu'on voit comment il est dans sa vie de prière, comment il est dans sa vie relationnelle, comment il est dans son humanité, dans sa psychologie. Ça va être ça. Alors ensuite, on fait aussi des études de théologie, de philosophie, d'histoire de l'Église, de droit canonique, d'exégèse, c'est-à-dire l'étude de l'Écriture sainte, toutes ces matières qui sont nécessaires pour se former, à être prêtre, former son intelligence pour pouvoir proclamer la foi dans le monde d'aujourd'hui.
Vous nous avez parlé il y a quelque temps d'une réforme du séminaire qui va commencer ou qui a peut-être commencé d'ailleurs. De quoi s'agit-il exactement? Qu'est-ce qui doit ou qu'est-ce qui va changer au séminaire?
En fait, ce qui change, c'est une clarification, si vous voulez, sur les... Il y a en fait deux cycles dans le séminaire. Il y a les deux premières années. Bon, d'abord, il y a une première année de propédeutique. Il y a deux années ensuite de premier cycle. Et puis ensuite, trois, quatre années de second cycle. Mmh. Et on va vérifier... Donc, on a essayé de bien repréciser quels étaient les buts de ces différentes étapes. Voilà. Et dans le premier cycle, on va vérifier vraiment que le candidat, il est vraiment, il se fait vraiment disciple missionnaire. Un disciple, c'est-à-dire vraiment disciple du Christ. Vous ne pouvez pas être prêtre si vous n'êtes pas d'abord disciple de Jésus, si vous n'êtes pas mis à la suite de Jésus. Et ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut consolider. Et puis ensuite, ensuite, si vous voulez, dans le second cycle, c'est la préparation plus directe à la mission.
Au concret, quoi.
Au concret de la mission, et puis avoir donc cette intelligence de la foi, ouais, savoir comment aider les hommes et les femmes de notre temps, et puis avoir aussi un esprit missionnaire, parce qu'à l'heure actuelle, c'est la conversion missionnaire, elle est vraiment à l'œuvre dans l'Église. On ne peut plus attendre que les gens viennent dans nos paroisses, il faut aller les chercher aussi. Et qu'est-ce que ça demande, vous voyez, à chacun des candidats au moment où ils pensent être prêtres.
Donc être prêtre, ça exige aussi pas mal de qualités relationnelles, enfin d'ailleurs un certain zèle, une capacité d'être à l'écoute, une capacité aussi de manager en quelque sorte, parce que le prêtre, une fois arrivé dans sa paroisse, a à travailler, à collaborer avec des équipes. Tout ça, ça s'apprend et ça se développe au séminaire.
Oui, alors vous voyez, par exemple, sur les conditions d'exercice du ministère, ça, je crois que ça a quand même bien changé depuis quelques dizaines d'années. Ouais. C'est-à-dire que le prêtre collabore avec des personnes, avec des fidèles autour de lui. Il n'est plus tout seul, ni à prendre des décisions, ni à mettre en œuvre ses décisions. La figure du prêtre a changé, parce que quand il y avait un prêtre dans le village, et puis que les choses étaient un peu naturelles, un peu automatiques, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Et alors... je crois que, de fait, avec des candidats qui sont très différents, des caractères différents, des charismes différents, mais c'est vrai qu'il y a un invariant, c'est-à-dire qu'il sera toujours le responsable de la paroisse, et puis il aura animé une équipe d'animation pastorale autour de lui. Cela dit, il y a des prêtres qui ne sont pas faits pour aller en paroisse, il y a des prêtres qui ne sont pas faits pour être curés, parce qu'ils n'en ont pas du tout ni les capacités, ni le charisme, ni les compétences. Mais ce n'est pas grave, parce qu'il y a, de la place pour d'autres formes de ministères. Par exemple, accompagner des mouvements,
ouais.
ou bien être aumônier d'hôpital, aumônier de prison. Il y a mille manières d'avoir du ministère. Alors, à l'heure actuelle, comme on a moins de prêtres, il y a moins de diversité dans les ministères. Mais il y a eu des prêtres profs, il y a eu des prêtres théologiens.
Et l'Église a besoin de tous ces prêtres.
Des prêtres qui sont occupés des drogués. On connaît beaucoup de figures de prêtres très, très différentes. Et voyez, dans pas longtemps, le mois prochain, là, je vais passer quelques jours avec une petite association de psychologues chrétiens. Et parmi eux, il y a les prêtres qui sont psychologues, qui exercent le métier de psychologue.
Quelle est la situation dans notre diocèse, Mgr Bouvet? Il y a des jeunes cette année qui sont en année de propédeutique, donc en année de réflexion, c'est ça, avant de rentrer au séminaire. Est-ce qu'il y en a d'autres? Où est-ce qu'ils sont formés? Où est-ce qu'ils vont pour se former?
Alors, pour l'instant, on a donc deux séminaristes au séminaire de Toulouse. Frère François-Xavier qui a été ordonné diacre il y a un mois. Jean qui est en théologie, donc dans le second cycle, là, donc il se prépare, je vais l'instituer lecteur la semaine prochaine, c'est une étape vers l'ordination diaconale. Voilà. Et puis ensuite, on a un garçon qui a été, Corentin, qui a été en propédeutique à Aix-en-Provence, puisque c'est la propédeutique de la région du sud de la France, et donc il va rentrer au séminaire l'an prochain, à Toulouse. Et puis on a un garçon qui rentre en propédeutique à Aix-en-Provence, là, en septembre. Voilà, et donc, ils entrent en propédeutique, mais ça ne veut pas dire qu'ils seront ordonnés prêtres un jour, parce qu'ensuite, il y a ce travail de discernement dont je vous parlais, où un garçon peut s'apercevoir que finalement, ce n'est pas ça, sa voie. On a eu plusieurs candidats qui ont arrêté. Ou bien, on peut lui dire, on a l'impression que tu n'es pas fait pour ça, et qu'il vaut mieux soit partir dans la vie consacrée, par exemple, soit partir dans la vie laïque, quoi, et reprend un métier, voilà.
Comment on peut aider cet appel à la vocation? Alors, les familles ont sans doute un rôle à jouer. Vous parliez au début des personnes qui nous entourent. Est-ce que ça a une importance directe dans la vocation, dans l'appel du jeune? Peut-être la proposition de la famille ou la proposition du prêtre de la paroisse? Quel est votre avis là-dessus?
Oui, je crois que la famille a un rôle déterminant, même si jamais il y a des garçons qui sont entrés au séminaire avec une famille qui était plutôt un obstacle ou bien qui n'avait pas fait évoluer dans la foi. Mais je crois que la plupart du temps, c'est dans la famille qu'on grandit dans la foi. Là, je lisais ce matin des lettres de confirmant que je vais confirmer dans 10 jours à la cathédrale. Et je vois bien combien la famille a été importante dans leur chemin de foi, un encouragement à la foi. C'est-à-dire que la famille dit « tu as le droit d'avoir la foi ». Et on t'encourage à avoir la foi. Et ensuite, il y a le respect, l'amitié pour le prêtre aussi qu'on peut cultiver dans une famille. Parce que si dans une famille, on est toujours en train de se moquer des prêtres, des curés,
ça donne pas envie,
comme on dit, ça donnera jamais envie aux enfants. Alors, il y a aussi une autre manière, c'est de mettre le prêtre tellement haut que ça ne donne pas envie non plus. Vous voyez, c'est un être tellement à part que les jeunes ne s'y retrouvent pas. Moi, je crois que pour la première chose, pour cultiver les vocations, c'est que, on ait confiance dans les prêtres dans une famille.
Et qu'on ose en parler.
Pardon ?
Qu'on ose en parler, qu'on ose proposer. Est-ce qu'on propose assez aux jeunes ?
Je ne sais pas s'il faut proposer. Je sais en tout cas qu'il faut que l'enfant comprenne que s'il y a un prêtre dans la famille, ça ne sera pas... Ça ne sera pas une inquiétude ou ça ne sera pas une tâche indélébile ou que ça ne sera pas une honte, mais que ça fait partie des choses qui sont possibles dans une famille. Parce que, vous voyez, il y a aussi une manière de faire pression en disant qu'on aimerait bien avoir des prêtres. Si on le dit tous les jours à table, il y aura peut-être un des enfants qui finira par s'y coller, mais j'ai un petit peu peur que... Vous voyez, ça soit contraint, alors que je crois que... Il suffit tout simplement de montrer combien les prêtres ont de l'importance dans une vie. Moi, je voyais un homme l'autre jour qui est plutôt à la fin de sa vie et qui me disait « Mais vous savez, moi, j'ai toujours rencontré des prêtres formidables, des prêtres qui m'ont aidé, des prêtres qui m'ont fait faire du chemin, des prêtres qui m'ont aidé à réfléchir. Ben, » Moi, je trouve que quand un homme dit cela à sa famille et que les enfants entendent cela, entendent ces discours, eh bien, ils peuvent du coup se projeter, se dire « Bah oui, tiens, cet appel que j'ai en moi... il sera quand même bien reçu dans ma famille. Mmh. Et moi, personnellement, je me souviens que dans la famille, même si tout le monde n'était pas pratiquant, on avait une belle idée du prêtre. Hein. L'idée du prêtre n'était pas ni déformée, ni exaltée à tel point que, ben voilà, on n'ose même plus y penser. Mmh. Mais, et puis, il y a eu des prêtres qui sont venus à table aussi, à partager la table familiale. Donc, c'est des prêtres qu'on peut approcher. C'est des prêtres qui montrent dans leur humanité. Et donc, je crois que tout ça fait... Et puis, alors, ensuite, il y a la prière. Je crois que vous m'interrogez sur la manière de, disons, de susciter les vocations. Oui. Donc, il y a l'ambiance. Hein. Je crois qu'il faut aussi que les jeunes voient des prêtres. Hein, c'est-à-dire qu'ils fréquentent des prêtres, qu'ils aient des prêtres là, pas loin, et qu'ils puissent s'identifier à eux mmh. aussi, se dire « moi, j'ai envie d'être comme eux », ou en tout cas, j'ai envie de faire la même chose qu'eux. Et puis ensuite, et ben, la prière, c'est-à-dire de demander au Seigneur d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Hein. Le Seigneur Jésus le dit lui-même, et ça, c'est important. On peut le faire en famille, on peut le faire en communauté. J'espère que dans les paroisses, on prend du temps pour cela.
Merci beaucoup, Monseigneur Bouvet. Prions pour les vocations. Voilà ce qu'il faut retenir de cet entretien.
Prions pour les vocations, pour tous ceux qui vont être ordonnés prêtres ou diacres là, dans ce mois de juin, parce qu'il y aura des ordinations nombreuses, et on s'en réjouit. Et merci à tous les auditeurs de porter aussi cette intention dans leur prière.